RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, le whisky est la boisson nationale des Écossais. C'est aussi une industrie exportatrice florissante. Alors comment ces acteurs abordent-ils le Brexit ? Balade au pays du scotch, un grand reportage signé Dominique Bayard.
Alors voilà, prenons un verre. C'est un Brora 1977, regardez-moi ça. Voilà. Alors, cette couleur dorée plutôt que foncée me fait penser qu'il a vieilli dans un fût en chêne blanc d'Amérique. Ensuite, on le hume, on le renifle, et qu'est-ce que ça nous rappelle ? La cire de bougie ? Ouais, il y a une sorte de parfum, une note florale, ça peut être de la rose, une sorte d'arôme féminin dans ce whisky-là. Et ensuite, vous le goûtez.
Nice smooth texture.
Belle texture.
Light sweetness to start with.
Un léger goût sucré au début, de l'acidité sur le bord de la langue, sec à la fin, d'une façon agréable. Et ensuite, les épices se font sentir. Il est étonnamment épicé, hein, long en bouche, chaleureux. C'est un très beau whisky, très agréable, et je suis content d'avoir choisi celui-là.
Lovely whisky. I'm glad I chose this one.
Charles MacLean est l'un des grands nés du scotch, c'est-à-dire du whisky écossais. Auteur de multiples ouvrages sur son histoire, il est devenu l'incontournable chroniqueur de cette industrie florissante. C'est environ 40 000 emplois en Écosse, 4 fois moins que dans le pétrole, mais une fontaine de jouvence pour les revenus extérieurs.
Cela contribue massivement au commerce extérieur du Royaume-Uni, énormément. C'est le deuxième contributeur à la balance commerciale du Royaume. L'Écosse en profite bien sûr à travers l'emploi et indirectement par l'impôt. Parce qu'évidemment, les taxes imposées par le gouvernement britannique s'appliquent en Angleterre et en Écosse. Donc l'Écosse n'en bénéficie pas directement par l'impôt. Un impôt d'ailleurs qui est astronomique, 77% sur une bouteille. C'est ridicule parce que c'est prohibitif et ça en fait un produit très cher. Mais les fermiers en profitent parce qu'ils vendent leurs céréales. Il y a le transport, l'industrie de l'emballage, l'industrie du verre, tous ces échanges et ces industries insulaires. C'est beaucoup de gens, c'est une contribution majeure à la richesse de l'Écosse et bien sûr à celle du Royaume-Uni. Bon, c'est vraiment en 2008 que ça a décollé. Depuis 2004, 23 nouvelles distilleries ont ouvert leurs portes. De très grandes, comme Rosel, qui peut produire 15 millions de litres d'alcool par an, et des toutes petites. De plus, beaucoup de distilleries ont augmenté leur capacité de production. En fait, les capacités depuis 2004 ont augmenté de 65%. C'est un bond gigantesque. Et ce n'est pas fini, car il y a aujourd'hui 41 projets de nouvelles distilleries.
There are 41 proposed new distilleries.
Parmi ces nouvelles venues, Kilhoman, ouverte en 2005 dans l'archipel des Hébrides sur la côte ouest de l'Écosse, sur l'île d'Islay, Isla, disent les Écossais. Là où il y a sans doute le plus de production de whisky au mètre carré. Cette toute petite distillerie a basé son succès sur une ferme orgicole et sur son savoir-faire dans la fabrication du single malt. La variété la plus noble, c'est 10% de la production et 25% du chiffre d'affaires global de l'industrie du whisky. Anthony Wills est l'heureux patron de cette entreprise familiale.
On a eu de la chance, on a été une des premières nouvelles distilleries, un genre de start-up du scotch. Ici, à Isla, on était la première depuis 125 ans. On est là depuis 11 ans et on est très content de l'intérêt pour le single malt. On vend dans une quarantaine de pays à travers le monde. En Europe, la France et l'Allemagne sont deux marchés très lucratifs pour Kilhoman.
Et soudain, en juin, ce vote favorable au Brexit. Qu'est-ce que ça a changé pour vos affaires ?
Maintenant, les échanges sont libres. On envoie et ça arrive. Grâce à la libre circulation des biens, en 4 jours, c'est en France ou en Allemagne. Il y aura sans doute plus de paperasse et ça va rallonger le délai d'arrivée de nos produits sur les marchés. Ce qui est tout le temps un problème pour une petite entreprise qui est mise sur le service. On veut que nos clients soient satisfaits, donc l'incertitude est un motif d'inquiétude. Mais je ne pense pas que nos ventes vont décliner. Je pense qu'on continuera à vendre.
Je ne pense pas que ça va se passer. Je pense qu'on continuera.
whisky écossais est tellement connu à travers le monde, ça va continuer. C'est juste l'incertitude et la stupidité des gens qui ont décidé qu'on sorte de l'Europe, parce qu'ils croyaient qu'on allait gagner quelque chose. Il y a des tas de choses que les gens n'ont pas pris en considération au moment du vote. Maintenant, on n'a plus qu'à faire avec.
Nous voilà au Pod Still, le bien nommé Alambic, le pub de Glasgow, apprécié des amateurs de scotch.
I personally was horrified by the Brexit vote.
Personnellement, j'ai été horrifié par ce vote en faveur du Brexit. Ici en Écosse, pas tout le monde, mais une majorité évidente, était aussi horrifiée par ce vote. Sur le plan des affaires, la vérité, c'est que Brooklady, c'est une histoire extraordinaire qui s'est écrite dans le cadre de la réglementation européenne.
Within the framework that was created by the European Union. And the idea.
Et l'idée que cela va être démoli et remplacé par on ne sait pas vraiment quoi est forcément un souci. C'est déstabilisant. C'est vraiment déstabilisant. On aurait préféré son passé.
It's destabilizing. Frankly, we could do without it.
Carl Rivet est chargé de la communication de Brooklady, l'une des 8 distilleries que compte cette petite île d'Ayla, connue dans le monde entier pour ses whiskies. Cette fabrique, construite à la fin du 19e siècle, a repris du service en 2001 pour produire des single malt selon une éthique qui va bien au-delà de la réglementation, imposant l'usage exclusif de l'orge et l'affinage de 3 ans en fût.
Brooklady is very different. It's almost fierce in the way.
Brooklady est très différent. On est assez radical dans notre façon de fabriquer le whisky. Il y a certains principes qui sont assez inhabituels dans le monde moderne. En fait, des principes même uniques. On insiste sur le fait d'utiliser exclusivement de l'orge écossaise, par exemple. On insiste sur l'affinage de tous nos whiskies sur Ayla. On refuse d'ajouter des couleurs artificielles. On met tout en bouteille sur place. Ça peut sembler assez simple, mais ce sont des principes qui sont farouchement défendus par Brooklady. Et ça nous donne des arguments forts en termes de traçabilité, d'authenticité, un niveau assez rare dans le modèle actuel des spiritueux.
Brooklady, l'anticonformiste, Brooklady, la marginale, n'a pas échappé à la vague de concentration. Son créateur l'a vendu il y a 5 ans à Rémy Cointreau. Sur Ayla, le groupe français côtoie LVMH, Diageo, le numéro 1 britannique du scotch, ou encore le japonais Suntory. La distillerie n'a pas perdu son âme, bien au contraire, c'est même son meilleur atout. Visite guidée sur place avec Raymond Tibbs.
So, the great thing about Brooklady.
Donc ce qui est génial à Brooklady, c'est qu'on a conservé la plupart des machines d'époque. Et ce qu'on essaie de faire ici, c'est de faire du whisky en utilisant le savoir-faire et les équipements d'origine qui étaient employés à l'époque victorienne. Donc le moulin, par exemple, est l'un des derniers en Écosse à être conservé. Et un des alambics date de 1881. Donc l'équipement a encore la saveur de l'époque, et il en est de même pour les traditions. Normalement, une distillerie emploie 7-8 personnes. Ici, on est plus de 70, donc on est le plus grand employeur privé de l'île.
We actually have over 70 people working, so we are the largest employer on the island.
Juste de l'autre côté du bâtiment, il y a l'océan Atlantique. Cet air frais de l'Atlantique pénètre nos tonneaux. Il passe dans les ouvertures et il traverse les entrepôts. Et cette saveur exquise de l'océan, c'est ce qu'on veut dans nos whisky. Alors Dominique, il y a quelque chose d'incroyable qu'on peut assurer à nos visiteurs. Le contenu de toutes les bouteilles de Brooklady du monde entier provient de cette cuve. C'est l'original de 1881, une cuve de brassage en fonte qui marche depuis le jour où cette distillerie a été construite. En Écosse, il n'en reste plus que 4 ou 5. C'est une machine géniale. Maintenant, les cuves sont en inox ou peut-être en cuivre. Et à un moment, quand on lancera un nouveau processus de fermentation, cet endroit va se transformer en un sauna enfumé. Vous ne pourrez même plus voir votre main devant votre visage. Mais l'odeur de la fermentation, ce fumet sucré qui vient de l'orge, ça c'est fantastique. Et ça donnera cette odeur délicieuse, naturelle, provenant du pain de l'Oregon qui vient de la pièce d'à côté. On n'utilise que des cuves de fermentation en bois ici.
Alors là, Raymond, vous m'emmenez vers l'endroit où est stocké le whisky.
Nous sommes devant l'entrepôt numéro 12, surnommé affectueusement par ceux qui y travaillent, le Vatican. Et c'est là où tous nos fûts sont remplis et assemblés, pour donner du whisky en bouteille. Voilà les gens qui travaillent ici tous les jours, Marius, Yann, donc c'est eux qui s'occupent de notre immense réserve de whisky. En ce moment, il y a environ 60 000 tonneaux entreposés et on doit tout avoir à l'œil. Donc les gars sont en train de ranger des fûts. Puisqu'Adam est le maître distilleur, c'est son boulot de contrôler régulièrement les tonneaux. Il est là-haut en ce moment.
Il y a jusqu'à 11 étages de fûts empilés dans la cathédrale, le Saint des Saints du Vatican. Retour à des rencontres plus terre à terre.
Hello.
Bonjour.
How are you doing?
Fine.
I'm Adam.
Donc je suis Adam. Vous voulez goûter un whisky?
Pourquoi pas.
Ça va, c'est pas trop tôt dans la matinée.
Wow.
You close vous fermez Vatican. Le Vatican?
Yes.
Oui, on cadenasse.
Unlocked. There we go.
Allez, on y va.
Ce réservoir à l'extérieur, c'est celui où l'on verse l'eau de source locale qu'on nous livre. Le gentleman que j'espère vous pourrez rencontrer ce matin, Mr. James Brown, c'est le fermier qui possède la ferme baptisée Octomore. Et non seulement il fait pousser une orge étonnante pour notre whisky, mais il fournit aussi toute l'eau de source utilisée pour nos whiskies. Tout notre moût est rincé, réduit de 50% par cette eau de source qu'on trouve à 1 mile d'ici.
Mon nom est James Brown, né et grandi ici à Isla. Je ne suis jamais allé voir ailleurs. J'ai travaillé là toute ma vie, à la ferme et des tas d'autres boulots. J'ai joué de la cornemuse dans les mariages et les enterrements. J'ai fait des petits boulots et notre vie a complètement changé quand Brooklady est arrivé. On s'amuse bien avec eux, c'est sympa d'être impliqué. On est impliqué, il y a l'eau et puis il y a eu l'orge. Faire pousser de l'orge ici est très difficile à cause du sol, des conditions météo, tout est contre nous. Les oies sont contre nous, les daims sont contre nous. Faire de l'orge nous a permis de nous diversifier. Mais on l'a fait parce que Brooklady paye une prime pour l'orge. Si on nous payait le même prix que sur le continent, on ne le ferait pas, on pourrait même pas. Parce qu'en Écosse, ils arrivent à 4 tonnes pour un demi-hectare et nous, on ne fait même pas la moitié.
They might be getting up to 4 tonnes per acre and we're at less than half.
Vous recevez des subventions?
Not for barley.
Pas pour l'orge. On a les subventions européennes qu'on va avoir au mieux pendant encore 2 ans. Et après, on va devoir vendre les enfants.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Je rigolais.
Jim préfère en rire, tandis qu'à la distillerie, Adam Hannett fait les comptes.
Pour chaque tonne d'orge qu'on utilise, je pense que ça coûte 450 livres pour notre whisky ordinaire. Et pour le malt d'orge, il nous en faut 3000 tonnes. C'est un coût très, très important. Et donc, au fil des années, dans l'industrie du whisky, depuis une dizaine d'années, il y a eu un gros effort pour rationaliser la production, pour tirer le maximum de cette tonne. La plupart des distilleries cherchent à maximiser le rendement en alcool en tirant le maximum de l'orge. et la plupart extraient 410-420 litres d'alcool par tonne d'orge, et ils continuent à vouloir augmenter ces rendements au maximum parce que c'est un coût très important.
80% de l'orge utilisée dans l'industrie du scotch est cultivée en Écosse, mais bien peu de distilleurs entretiennent une relation étroite avec leurs fournisseurs. Anthony Wills de Kilhoman.
Il y a beaucoup de soutien ici à Islay pour la production d'orge. Brooklady est en première ligne parce qu'ils font pousser beaucoup plus d'orge que nous. Nous, on fait 165-170 tonnes et eux, je pense qu'ils font plus d'un millier de tonnes en tout. Dans le reste de l'Écosse, c'est pas le cas, parce que l'orge, historiquement, est cultivée dans le nord de l'Écosse. Mais la plupart des distilleries achètent leur orge d'une compagnie spécialisée dans le malt. Et leur orge peut venir de n'importe où, d'Écosse, d'Angleterre, de Scandinavie, n'importe où.
Êtes-vous membre de l'association du whisky écossais ?
Oui, oui, on a toujours pensé qu'il valait mieux être dedans que dehors. Ils nous fournissent beaucoup d'informations très intéressantes. Ils nous rapportent leurs échanges avec le gouvernement, nous parlent du commerce. C'est très utile d'en faire partie, même si nous n'avons pas vraiment notre mot à dire parce que nous sommes très petits.
La Scotch Whisky Association, c'est le lobby des grandes marques et c'est un Français qui la préside en ce moment, le patron de Pernod Ricard. Rien d'étonnant, Pernod Ricard est le numéro 2 du whisky écossais et la France est le deuxième débouché après les États-Unis. Au siège à Édimbourg, la responsable de la communication, Rosemary Gallagher, est plutôt confiante sur l'après-Brexit.
Le scotch est plutôt chanceux. Nos exportations vers l'Union européenne resteront libres de droits à cause d'une règle de l'Organisation mondiale du commerce. Donc, même quand le Royaume-Uni quittera l'Union européenne, on continuera à exporter sans payer de droits. Donc on ne pense pas que cela aura trop d'impact sur nos exportations vers la France ou les autres pays européens.
Jusqu'à maintenant, avec la chute de la livre, ça a été plutôt une bonne affaire.
À court terme, il y a eu des bénéfices avec la fluctuation des devises. Mais on est une industrie de très long terme. Le scotch fabriqué maintenant sera vendu dans au moins 3 ans, peut-être 5 ou 10 ans. On doit s'assurer qu'à long terme, on a un accès facile au marché extérieur et que le Royaume-Uni pourra faire de bons accords de libre-échange pour aider le whisky écossais.
L'association peut compter sur son ancien directeur David Frost, parti rejoindre Boris Johnson au ministère des Affaires étrangères.
C'est difficile à dire, nous sommes plutôt bien représentés au gouvernement. On a des liens permanents et une bonne connexion avec eux. Et donc, que David Frost soit un conseiller et qu'il comprenne bien le monde du whisky, ça aidera.
Prends un scone, on s'est diversifié. Dans les gîtes ruraux et dans d'autres choses, mais des tas d'autres fermiers ne peuvent pas. Il y a pas mal de désenchantement chez les fermiers. La ferme, c'est plus que c'était. Ceux qui travaillent dans les distilleries s'en sortent mieux. À une époque, la plupart des gens travaillaient à la ferme, à Islay, mais de nos jours, il n'y en a presque plus. Les meilleurs boulots, c'est dans la distillerie. Il y a toujours la pêche, mais la distillerie et le bâtiment, ce sont les meilleurs.
So I have already purchased a couple of bottles of breakfast whiskey to take home. And as a special tribute to this, I'm going to sing my whiskey for breakfast song with a new verse that's about Islay, but it's not this. I take whiskey for my breakfast to see me through the day. Just one little whiskey.
L'industrie du scotch à l'épreuve du Brexit, c'était un reportage de Dominique Bayard, réalisation Victor Hull, une émission produite avec le soutien financier de l'Union européenne.
Some folk love their cornflakes and others porridge oats. Shredded wheat. Autour de la question.